La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nouveau rendez-vous de la biodiversité samedi en ce 3 juin. L'été se profile, le printemps a été généreux pour la végétation, les fleurs et notamment les fleurs sauvages des rues sont bien apparues. Une belle exposition itinérante à Chalon à l'occasion de ce rendez-vous. Aujourd'hui, engageons-nous pour la nature, mettons-nous au vert. Grande journée aussi d'animation donc avec un parcours en centre-ville avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. À qui l'on doit cette belle émission mensuelle? Et une fois n'est pas coutume aujourd'hui, eh bien nous recevons une des salariés du syndicat Manon Guérin, animatrice du Sage, du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. Bonjour Manon.
Bonjour Emmanuel.
Alors je vous reçois avec de nombreuses questions sur ces sauvages des rues, ces plantes, ces fleurs que l'on a longtemps considérées comme de mauvaises herbes et que l'on valorise au contraire aujourd'hui. Mais d'abord, comme chaque début d'émission, je vous demande de nous raconter un petit peu qui vous êtes, votre parcours professionnel déjà.
Alors du coup, je suis ingénieure en milieu aquatique. J'ai fait un master d'ingénierie des milieux aquatiques à Tours. Et depuis 2018, je travaille au syndicat mixte de la baie de Bourgneuf en tant qu'animatrice du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Alors vous travaillez pour défendre, pour soutenir la biodiversité, la nature, c'est une passion ancienne?
Alors, je travaille essentiellement du coup sur la protection des milieux aquatiques. Par extension, du coup, ça agit sur la biodiversité. Et ma passion, elle vient surtout du fait que l'eau, c'est la vie, c'est ce qu'il nous faut pour toutes nos activités. Et c'est pour ça que je m'étais orientée sur la protection des milieux aquatiques.
Expliquez-nous aujourd'hui, avant de parler du sujet hein, du jour, ce que vous faites en fait au syndicat. Vous animez le Sage du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf. Alors c'est quoi, rappelons-le, le Sage, et quelles sont vos missions précises?
Du coup, le Sage, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est en fait un document qui est à l'échelle d'un bassin versant, donc c'est une unité géographique de répartition des eaux. Et en fait, l'objectif de mon poste, de mon métier, c'est qu'il y ait de l'eau en quantité et en qualité suffisante pour tout le monde, pour l'agriculture, pour les industriels et pour la population, ainsi que, on les oublie bien souvent, les milieux et donc les êtres vivants qui vivent dans ces milieux.
Alors évidemment, je crois que vous résumez au maximum l'information de vos missions. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet quelque part, les fleurs, parce qu'on est un petit peu polyvalent au syndicat.
Oui, c'est ça. Le fait qu'on soit une petite équipe nous demande quand même une grande polyvalence. Et puis, à chacun, on a choisi de développer selon nos affinités les sujets qui nous passionnaient.
Alors, on vous retrouve avant et après l'émission à Chalon aujourd'hui, hein, puisque le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf est présent avec la ville pour une grande journée d'animation. Déjà des échanges. Encore dans l'après-midi, on pourra venir de 14h à 17h30 devant l'espace Jean et Joël Martel. Et puis, dans ce parcours dans le centre-ville, à travers l'expo sauvage des rues belles et rebelles, on a 19 panneaux qui sont placés en cœur de ville. Expo qui a été mise en place il y a plusieurs années. À la faveur, je pense, d'un vrai changement de perspective. Les belles et rebelles, ce sont ces fleurs, ces plantes qui ont longtemps été appelées mauvaises herbes et qui ont été tout simplement éliminées pour des rues propres et nettes. C'était un peu l'image, l'idée hein, visée par les politiques locales.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a une vision propre de notre environnement qu'il faudrait changer et qui commence à changer. Un trottoir, s'il y a des petites herbes qui poussent, c'est pas pour ça qu'il est sale. Au contraire, quand on va mettre des produits chimiques, et ben c'est ça qui va apporter une pollution et donc qui va contaminer après beaucoup de choses, que ce soit les êtres vivants qui vont consommer en fin de compte ces produits en rampant dessus ou en s'alimentant par l'eau qui a ruisselé sur ces produits, ou nous-mêmes en fin de compte, puisque l'eau qui va tomber par la pluie va ruisseler sur les produits qui vont finir dans les eaux pluviales, qui va finir en fait dans le milieu. Et c'est aussi ce milieu où on prélève l'eau potable, même s'il y a des traitements après. Enfin voilà, donc la notion de propre, il t'a changé.
Et elle a changé. C'est un vrai changement de paradigme qui s'est imposé au fil des années. L'idée, c'est, et si ces rebelles étaient finalement belles, importantes et évidemment pas sales?
Oui, du coup, en fait, depuis 2017, il y a eu la loi Labbé qui fait qu'on n'a plus le droit d'utiliser des... Alors, d'abord, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires dans l'espace public. Au départ, ils avaient encore le droit sur les cimetières et les terrains de sport. Donc ça aussi, ça a évolué. Maintenant, c'est zéro phyto sur toutes les communes. Et puis, depuis 2022, les particuliers également n'ont plus le droit d'utiliser les produits phytosanitaires interdits Donc après, il y a toujours des petites notions. Vous pouvez utiliser des produits phytosanitaires qui sont utilisés en agriculture biologique, mais on va le voir, c'est pas non plus ce qu'il faut faire.
On va reparler effectivement de toute cette politique de traitement des espaces verts. Alors justement, ces espaces verts, non seulement ils n'utilisent plus ces produits, mais ils vont aussi même favoriser quelque part la venue de ces fleurs et de ces plantes. On ne rase plus ces mauvaises herbes dans plein de quartiers, dans plein de communes. On peut en voir sortir littéralement du béton.
Oui, l'idée c'est de laisser fleurir quelques spontanées, donc les belles et rebelles, les fleurs spontanées qui vont pousser normalement. Sur nos trottoirs, sur les petits carrés d'herbe qu'il y a un peu dispersés partout dans les villes ou également sur les murs. Et donc c'est ça qui fait qu'on va apporter de la biodiversité, puisqu'en fait en ne sélectionnant plus que des plantes qu'on aura plantées, qui ne sont pas forcément en plus des plantes adaptées à nos insectes, puisque ce sont des plantes génétiquement modifiées ou qui viennent de d'autres pays, et bien là on va laisser une fleur locale s'épanouir et donc laisser aussi nos insectes de la nourriture qu'ils peuvent utiliser.
Alors justement, on va parler de tout ça, de ces fleurs, de ces plantes qui colorent nos rues aujourd'hui. On retrouve Manon Guérin dans 3 minutes pour parler justement de ces sauvages des rues. sur 9 FM dans la biodiversité samedi, émission promue, on le rappelle, par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf qui invite tous les mois, premier samedi de chaque mois, un expert, une experte. Aujourd'hui, Manon Guérin qui travaille justement pour le syndicat et nous parle des sauvages des rues, ces plantes, ces fleurs qui poussent toutes seules en fait, Manon. Elles prolifèrent aisément.
Oui, tout à fait. Dès qu'on a arrêté d'agir, elles se sont mises à s'épanouir. Pour notre plus grand bonheur.
Alors, je vous propose de nous présenter certaines d'entre elles plutôt connues, on va le voir, mais on a plein de choses à apprendre de vous, avec aussi pour chacune des espèces la question de leur intérêt, de leur particularité. On commence par le lierre. Alors moi j'adore le lierre, c'est beau le lierre, mais effectivement on peut l'imaginer parfois un petit peu trop invasif.
Alors c'est là la notion de invasif. Alors on utilise le mot invasif que quand c'est une espèce exotique envahissante. Et par exotique on entend une espèce qui n'est pas de notre pays ou même de notre continent. Le lierre, il n'est pas du tout exotique envahissant, il n'est pas invasif. Par contre, il peut être un petit peu envahissant. Effectivement, ça arrive qu'il prolifère fortement. Après, c'est une plante qu'on va penser un peu parasite, alors que non, pas du tout. Le lierre, il s'appuie sur les autres plantes, mais il ne va pas utiliser les ressources des autres plantes pour lui survivre. Il a juste besoin de s'appuyer dessus. Après, le lierre, c'est une plante qui est extraordinaire. C'est une plante déjà qui va fleurir assez tard dans l'année. Et donc, c'est l'une des dernières ressources pour nos pollinisateurs. Ils vont pouvoir se nourrir juste avant l'hiver, et où là, c'est une période un peu plus difficile pour eux. Et il va fructifier très tôt dans l'année. La fleur va être pollinisée à la fin de l'automne. Elle va fructifier un petit peu tout le long de l'hiver. Le fruit va apparaître à la fin de l'hiver. Et à la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour de nos oiseaux migrateurs qui vont pouvoir se nourrir de ces baies du lierre. Donc c'est extrêmement intéressant pour eux. Le lierre, c'est aussi du fait qu'il crée des touffes, un abri pour les insectes, pour certains reptiles comme les lézards, qui vont en plus s'alimenter des insectes qui vivent dans le lierre. Donc c'est parfait pour eux. Et en plus, on peut en faire de la lessive pour les plus intéressés d'entre nous qui peuvent récolter le lierre et en faire de la lessive.
C'est une bonne nouvelle parce que moi, j'ai plein de lierre autour de chez moi.
Il y a en mélangeant le lierre à l'eau, on peut faire un agent un peu détergent. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a plein de recettes sur Internet.
J'allais le dire, je vais aller chercher des tutos. Alors, je vous propose aussi de nous parler de ces belles et rebelles que sont les pissenlits.
Oui, alors les pissenlits, donc cette magnifique fleur jaune qu'on voit fleurir souvent dans nos pelouses, en fait ce n'est pas une fleur, c'est ce qu'on appelle une multitude de fleurs, c'est un capitule de fleurs. Donc si vous cueillez un pissenlit, en fait on va cueillir plein de fleurs différentes. C'est la même famille que la pâquerette, notamment. Cette petite pâquerette que les enfants récoltent pour faire des petits bouquets de fleurs. Et en fait, ils font un bouquet de multitudes de fleurs. Et c'est composé de fleurs à languette ou de feuilles, ou fleurs tubulaires. Donc, chaque fleur a son rôle pour les pollinisateurs. Mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est une famille extrêmement intéressante.
Et alors justement pour les pollinisateurs ?
L'avantage de ces fleurs, c'est qu'elles sont très colorées, très jaunes. Donc l'abeille qui est particulièrement attirée par la couleur jaune va être très très attirée par ces pâquerettes ou ces pissenlits. D'ailleurs, le pissenlit, pourquoi il s'appelle comme ça ? C'est grâce à ses qualités diurétiques. En fait, ça améliore le fait de vouloir faire pipi, donc le pissenlit. Oui, en général, les scientifiques n'ont pas cherché les noms des fleurs très loin pour certaines.
Pas toujours. Et effectivement, on peut la prendre comme une base alimentaire, en salade. Je crois qu'on a un petit peu perdu ça, mais ça revient.
Effectivement, le pissenlit est très riche en bêta-carotène. Donc, c'est une plante qui est extrêmement utile à consommer. Alors, attention, quand on consomme des plantes sauvages, on les cueille dans des endroits non pollués, assez éloignés des routes, et puis on les nettoie bien avec un petit peu de vinaigre, de l'eau très claire et un petit peu de vinaigre pour être sûr que ça soit bien nettoyé.
Autre exemple, Manon Guérin, le coquelicot. Alors ça, c'est ma préférée, son rouge vif, moi j'adore.
Oui, alors le coquelicot, c'est une plante que tout le monde voit ce que c'est, mais c'est une plante qui a failli disparaître puisque au final c'est une plante qui était associée aux cultures de céréales, et puis avec l'industrialisation de l'agriculture on a voulu être de plus en plus performant, et donc on a essayer d'enlever ce qu'on appelle les plantes messicoles, donc les plantes qui accompagnaient les céréales pour plus de rendement. Et le coquelicot, du coup, a fortement régressé. Aujourd'hui, c'est une plante qu'on retrouve très très facilement dans nos centres-bourgs. Elle s'y plaît bien. Et c'est aussi le coquelicot. Alors, il y a plusieurs anecdotes qu'on peut dire pour le coquelicot. Tout d'abord, le coquelicot, c'est le symbole de la Première Guerre mondiale dans de nombreux pays, surtout les pays anglo-saxons, puisqu'en fin de compte, le coquelicot, c'était une plante qui poussait très vite à la fin des combats dans les tranchées. Toutes les munitions apportaient de la chaux, et c'était un élément que le coquelicot adorait. Et du coup, et en plus avec sa couleur rouge sang, ça a été le symbole du soldat tombé au combat. On a aussi le coquelicot. Pourquoi on l'appelle le coquelicot? Eh bien, tout simplement parce que en France, il nous rappelle la crête du coq qui fait cocorico, donc le coquelicot. Encore une fois, on n'est pas allé chercher très très loin le nom du coquelicot. Et puis, c'est vraiment une plante qui est très colorée, donc on apprécie en général dans nos centres-bourgs.
Alors, il y a d'autres plantes, on va en parler après une petite pause. On va parler de ces plantes qui posent question et posent problème à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'allergiques. Les graminées, on parlera aussi des géraniums. Et puis, on va aussi parler de ces politiques qui ont été mises en place pour arrêter justement de traiter cet environnement, de polluer aussi l'environnement. Ce sera dans la troisième partie.
Vous habitez à Chaland, Bois-de-Séné, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache, Salerten ou Saint-Christophe-du-Ligneron? Vous êtes majeur et autonome? Alors vous pouvez bénéficier de Mobile Auto. Mobile Auto de la Croix-Rouge est un service de transport solidaire mis en place à titre expérimental. Un chauffeur viendra vous chercher à votre domicile avec son propre véhicule. Réservez 72 heures à l'avance en appelant le 06 11 43 18 38 les mardis matins, mercredi après-midi et jeudi matin. Mobile Auto, le transport solidaire. Offre soumise à condition.
Ah, génial! Il est arrivé à deux pas d'ici! Enfin, je veux dire, le magazine À deux pas d'ici vient de sortir. C'est un magazine super complet, édité par l'agence de com Penny Lane à Chaland. On y retrouve des tas de bons plans, des portraits d'entreprises locales, la vraie vie, quoi! Mais à deux pas d'ici! Et cette année, fini le papier glacé. À deux pas d'ici est conçu en papier recyclé, bien plus sympa pour l'environnement. À deux pas d'ici, en libre service chez mes commerçants préférés et tous les annonceurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Chaland, Saint-Jean-de-Mont et alentour.
La mission locale Vendée Atlantique, c'est une mission de service public qui permet de créer un pont entre toutes les générations.
Ça consiste en quoi concrètement?
Déjà, nous pouvons soulager et soutenir les parents. La mission locale est réactive et à l'écoute des plus jeunes pour leur permettre d'avancer, quelles que soient leurs difficultés et leurs projets, et leur faire rencontrer d'autres personnes de leur âge. C'est un regard extérieur essentiel pour se construire.
Les entrepreneurs peuvent vous aider?
Bien sûr. La mission locale Vendée Atlantique, c'est un partenaire de confiance pour recruter de jeunes talents et diffuser les offres des entreprises. Contactez-nous.
To myself.
êtes bien sur 9FM dans la biodiversité samedi. On retrouve aujourd'hui Manon Guérin, animatrice du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf, qui nous parle des sauvages, des rues. On a parlé du pissenlit, du lierre, du coquelicot. Un peu plus compliqué pour beaucoup de monde, beaucoup d'auditeurs je pense. En ce moment, au printemps, c'est pour beaucoup d'allergiques, ces graminées qui font partie de ce paysage, qui font partie de ces sauvages.
Oui, les graminées, c'est la plante pionnière. C'est vraiment la plante qui ça sera souvent la première à pousser sur un terrain complètement ravagé, donc notamment par rapport par exemple aux incendies de 2022. La première plante qui est ressortie des cendres, c'est la graminée. Et c'est aussi la plante qui nourrit en fait le monde entier. Le blé, l'orge, l'avoine, ce sont des graminées qu'on a transformées pour pouvoir les exploiter pour se nourrir. Mais voilà, les graminées, c'est vraiment notre source de nourriture première. Il y a énormément d'espèces. C'est un genre qui est extrêmement étendu, extrêmement complexe pour la détermination. C'est pour les étudiants, c'est notre bête noire. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop les graminées et pourtant, c'est quand même notre base d'alimentation.
Important de graminer. Puis vous avez intégré aussi dans les différentes espèces des sauvages belles et rebelles, les géraniums. Et moi, j'ai été surprise parce que moi, je les vois plutôt sur les balcons.
Oui, alors le géranium, alors du coup, ce que nous, on a sur nos balcons, c'est ce qu'on appelle le pélargonium. Donc un géranium, en fin de compte, qui a de très grandes fleurs, mais qui a le défaut de geler. Alors, c'est vrai que sur le littoral, ici, on a selon les années, des gelées plus ou moins fortes, et des fois on arrive à garder nos pélargoniums tout le long de l'année. En sauvage des rues, il y a le géranium qui, lui, est une plante annuelle, il ne gèle pas, et on en peut en retrouver trois espèces différentes assez facilement dans nos centres-bourgs. Le géranium herba robert, le géranium à feuilles rondes, et le géranium à feuilles molles.
Avec différentes couleurs?
Alors non, tout le géranium sera toujours rose, mais par contre il aura des tailles de feuilles et des couleurs de tiges différentes.
Et donc important évidemment, on l'a entendu aussi, pour nos pollinisateurs. Alors on parle aujourd'hui de ces sauvages des rues, ces belles et rebelles, ces plantes qui donc s'épanouissent. Et pendant des décennies, on l'a rappelé aussi en début d'émission, les politiques locales allaient dans le sens de leur destruction. Pas de végétation autour du béton, si ce n'est des parterres de fleurs soigneusement choisies, plantées. Aujourd'hui donc la vision des politiques et des habitants a changé. Déjà avec la fin de ces traitements les plus chimiques possibles, c'est tout simplement interdit par la loi aujourd'hui, vous l'avez déjà dit en début d'émission, on le rappelle.
Oui, c'est ça. Depuis 2017, la loi Labbé a interdit aux collectivités d'utiliser des produits phytosanitaires ou pesticides dans l'espace public. Et depuis 2022, cette loi s'est étendue aux particuliers.
Avec, on le rappelle aussi, cet impact fort sur l'environnement de ces produits, sans doute notre santé, sur notre eau, c'est votre spécialité, Manon Guérin.
Oui, c'est bien ça, c'est que, en fait, à partir du moment où vous allez utiliser un produit pour tuer une plante, il faut se dire que c'est un produit pour tuer, et donc forcément un produit nocif. Et tout ce que vous allez épandre dans les rues ou dans notre jardin, nous particuliers, il se retrouvera forcément dans notre eau. Et l'eau, c'est la base de tout. Par les eaux pluviales, en fin de compte, si tout le monde épand beaucoup de produits chimiques, on va avoir une eau de très très mauvaise qualité dans les milieux, avec des espèces qui vont être en souffrance. Et nous, à côté, on va perdre de la biodiversité, on va perdre de la qualité de vie, parce qu'en général, quand on perd de la biodiversité, on se rend compte que l'humain, lui, perd de sa qualité de vie. Et en plus, ça peut être réellement dangereux pour nous en termes de qualité de l'eau, puisque c'est quand même de l'eau qu'on va finalement boire.
Alors, ce sujet, il est aujourd'hui bien intégré, ou est-ce que vous avez encore du travail à faire d'information, de communication, de prévention?
Alors, il y a quand même du travail à faire. Il suffit, là, effectivement, c'est le printemps, les sauvages des rues sont sortis de terre, et c'est vrai qu'on voit encore pas mal de cours de particuliers traités, notamment au glyphosate. C'est cette molécule qui va tuer la plante et qui va faire vraiment cette couleur orange. Les agriculteurs ont encore le droit de l'utiliser, et ils l'utilisent parce que c'est pour leur rendement professionnel, mais nous, en soi, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser. On peut utiliser soit de l'huile de coude, arracher les plantes, soit tout simplement les laisser proliférer si on le souhaite. Ça, c'est toujours ça, cette notion de propre, revoir notre notion de propre. Est-ce que le fait d'avoir quelques herbes dans notre cour Est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça?
Pas vraiment, je pense. Hein. Et puis moi, je vois dans les rues toutes ces petites fleurs qui sortent. Moi, je trouve ça super sympa. En tout cas, on vous retrouve, vous Manon et puis votre équipe, hein, avec plein d'infos dans le cadre aujourd'hui de l'exposition Sauvage des rues. Elle est à Chalons. C'est une expo itinérante dont on parle sur Neuf depuis quelques années maintenant, hein, puisque on suit son parcours de ville en ville. On rappelle l'intérêt de cette exposition. Ce sont 19 panneaux qui nous invitent à avoir un autre regard sur ces plantes et fleurs.
Oui, donc on a 19 posters qui sont répartis dans le centre-bourg de Chalons. Et donc, il y a 3 visites commentées aujourd'hui de prévues. Et pour pouvoir avoir un peu plus d'anecdotes sur ces plantes sauvages, pour mieux les connaître, mieux les apprécier. Et aussi, par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver sur les trottoirs lors de cette journée, on va pouvoir étendre nos anecdotes au-delà de ces 19 posters.
Exposition qui est donc aussi pédagogique. Vous l'avez située pendant quelques jours aux abords des écoles, hein, à Chalons ces dernières semaines.
Oui, les enfants, c'est eux qui sont notre avenir. C'est eux qui vont permettre de changer cette perception de l'environnement. Et avec l'aide de la ville de Chalons, cette exposition a été disposée autour des écoles pour que les enfants aussi apprennent ce que c'est que la végétation spontanée et que ce n'est pas forcément inutile, surtout pas, justement, elles sont très utiles et de les laisser vivre.
On vous retrouve Manon Guérin donc aujourd'hui à Chalons, vous l'avez dit, visite guidée encore dans l'après-midi à 14h et 16h30 sur le parcours de l'exposition. Vous êtes à l'espace Jean et Joël Martel pour des échanges. Et puis voilà, on vous retrouve régulièrement dans des actions de prévention, de communication, dans les semaines à venir, l'été qui arrive, des grands temps forts avec le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf.
Alors, il y en aura sûrement qui vont encore se mettre, mais moi, vous pourrez me retrouver pour le festival Réveillons-nous le 14 juillet pour parler des zones humides et du bassin versant et plus généralement de la qualité de l'eau au Perrier.
Manon, vous connaissez bien l'émission et cette question finale pour chaque invité. Je crois que vous avez une petite longueur d'avance sur les autres parce que vous connaissez l'émission. J'imagine que vous avez réfléchi à cette question. À côté de quoi, selon vous, on ne doit surtout pas passer pour bien défendre notre biodiversité ?
Eh bien, vivre en laissant vivre nos petits gestes au quotidien, en fait, laisser notre plante spontanée, ne pas utiliser de produits phytosanitaires qui est là pour tuer, je le rappelle, donc qui est vraiment très mauvais pour notre santé et pour notre environnement. Donc tous ces petits gestes du quotidien qui permettront de faire une meilleure biodiversité. Parce que, je le rappelle, à partir du moment où vous laissez vivre une plante, vous laissez vivre aussi certains insectes qui vont nourrir des oiseaux et qui va en fait combler toute une chaîne alimentaire importante.
J'aime bien ce message final, vivre et laisser vivre. Merci beaucoup Manon Guérin, on salue toute l'équipe, on salue Julie Essager qui évidemment programme avec toute l'équipe de Ramsar, hein, des élus aussi, ses émissions mensuelles. Très bon week-end à tous, vous pouvez aller à Chalons aujourd'hui, plein d'actions, on l'a vu, avec aussi dans l'après-midi les portes ouvertes des serres municipales, les jardins familiaux, des ateliers, des balades, de la musique.